c'est vous, Sébastien Paour. Bonsoir, Sébastien.
Bonsoir à tous. L'Algérie entre-t-elle dans l'après Bouteflika après 3 semaines de manifestations? Le président au pouvoir depuis 99 annonce qu'il ne sera pas candidat à un 5e mandat de président et le scrutin du 18 avril est reporté. Le premier ministre démissionne. Nous sommes à Alger, évidemment, dans un instant, avec les premières réactions également des Algériens de France. Ils étaient archéologues marins ou militants écologistes, travaillaient pour le Programme alimentaire mondial ou la FAO. Beaucoup allaient à l'Assemblée de l'ONU pour le développement à Nairobi. Les boîtes noires de l'avion qui s'est écrasé hier au départ d'Addis Abeba ont été retrouvées. Boeing chute en bourse. La Chine et l'Indonésie interdisent aux 737 MAX de voler. Au sommaire également ce soir, Emmanuel Macron qui saisit le Conseil constitutionnel sur les 3 articles de la loi anti-casseurs. Le dernier accouchement à la maternité de Bernay. Zidane de retour au Real Madrid. Foles en concert demain sur Inter et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir on anticipe un peu sur la fin des grands débats. Ce sera plié vendredi. Le temps de digérer, il devrait en sortir quelque chose mi-avril. Mais quoi? Et que devient le mouvement des Gilets jaunes là-dedans? Comment ils survit ou comment il s'éteint? Parlons-en ensemble avec Ingrid Levavasseur, qui est l'un des visages des Gilets jaunes, et avec Yves Saint-Omer, qui est l'un des garants du grand débat.
La rue aura donc mis 3 semaines à se faire entendre en Algérie, mais c'est une quasi-certitude ce soir. Abdelaziz Bouteflika, 82 ans au pouvoir depuis 1999, achève son 4e et dernier mandat de président. Laïla Berato, vous êtes à Alger. La présidence algérienne vient d'annoncer qu'il ne serait pas candidat à un 5e mandat et que la présidentielle d'avril était reportée.
C'est une lettre à la Nation qu'a publiée l'agence officielle de presse. La présidence y écrit « Il n'y aura pas de 5e mandat et il n'en a jamais été question pour moi ». Le président Abdelaziz Bouteflika écrit ensuite qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle le 18 avril prochain, un report pour ouvrir la voie à la généralisation de la sérénité, de la quiétude et de la sécurité publique selon lui. Il annonce également qu'il y aura des changements à la tête du gouvernement et enfin, il annonce une instance présidentielle plurielle avec à sa tête un président qui sera une personnalité nationale indépendante qui organisera une conférence d'ici la fin de l'année 2019. Et c'est cette conférence nationale qui ensuite donnera lieu à une élection présidentielle dans le pays. Il annonce également qu'un gouvernement de compétence nationale assumera, lui, la supervision des missions de l'administration publique et des services de sécurité d'ici cette nouvelle élection présidentielle. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
La présidence algérienne annonce aussi que le Premier ministre démissionne, qu'une nouvelle constitution sera soumise à référendum en Algérie. Et puis Bouteflika, qui est rentré hier, devait faire valider sa candidature par le Conseil constitutionnel d'ici jeudi. Écoutez la réaction à présent de Toufik Halal. Il est algérien, il vit en France. Il est à l'origine de l'association La CDA, Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Il manifestait encore dimanche, place de la République à Paris.
C'est le résultat d'une mobilisation inédite dans l'histoire du pays, vraiment, par son ampleur.
Vous êtes surpris par le fait que Abdelaziz Bouteflika finalement renonce à ce 5e mandat, ou c'est une conséquence logique de cette mobilisation depuis plusieurs semaines maintenant?
Je pense que c'est une conséquence logique. Je pense que peut-être un réflexe de sagesse, hein, parce que l'affrontement allait tourner le peuple élu contre lui. Hein. C'est clair, c'était nommément lui. Il a été relativement quand même épargné au sens de sa personne, mais qu'on supportait pas cette espèce de monarchie qui ne dit pas son nom. Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas eu d'une espèce de haine féroce. Pas du tout, c'est tout simplement, on n'en veut pas.
Toufik Halal, algérien de France, au micro, au téléphone avec Yann Gallic. On rappelle les informations de ce soir. Abdelaziz Bouteflika renonce à se présenter à un 5e mandat de président en Algérie. Son premier ministre démissionne, l'élection présidentielle est reportée et une nouvelle constitution sera soumise à référendum dans un délai qui n'est pas encore communiqué.
Que s'est-il passé hier en Éthiopie, quelques minutes après le décollage d'Addis Abeba?
L'examen des boîtes noires de l'appareil d'Ethiopian Airlines devrait permettre d'en savoir plus. Elles sont ont été retrouvées toutes les deux aujourd'hui sur le site de l'accident. En attendant, on s'arrête sur les 157 personnes qui étaient à bord. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
Des passagers d'une quinzaine de nationalités, beaucoup employés des Nations Unies. Ils allaient participer à l'Assemblée de l'ONU pour l'environnement à Nairobi.
Oui, tout à fait. Cette conférence qui s'ouvrait aujourd'hui, en effet, dans la capitale du Kenya. Nairobi qui est en fait la plateforme des Nations Unies pour toute l'Afrique de l'Est. Et c'est ce qui explique, Sébastien, le grand nombre de victimes employées des organisations onusiennes, la Banque mondiale, le HCR, le Programme alimentaire mondial, ou cet archéologue marin italien qui se rendait à Nairobi pour l'UNESCO. Il devait participer à un projet de recherche archéologique en mer. Parmi les victimes encore, des membres d'ONG œuvrant au développement, à la solidarité dans cette région qui est, vous le savez, très touchée par de nombreuses crises, comme le Soudan du Sud ou la Somalie. La communauté de l'humanitaire donc également touchée. Et puis vous le soulignez, la communauté de l'environnement avec ses spécialistes qui se rendaient à cette conférence, des chercheurs, des universitaires, des acteurs de la société civile comme le président de cette ONG consacrée à la durabilité des forêts.
La catastrophe a aussi fait 9 victimes françaises, dont une bretonne elle aussi, engagée pour l'environnement.
Oui, la jeune femme originaire du Finistère était âgée de 36 ans. Elle travaillait en Norvège pour l'association des opérateurs de croisières dans l'Arctique. Son employeur l'avait envoyée justement au Kenya pour discuter de la question du nettoyage des océans, pour lutter contre la pollution de la mer par le plastique. L'identité des 8 autres victimes françaises n'est pas encore connue. Le Quai d'Orsay et les représentations françaises en Éthiopie et au Kenya ont ouvert des cellules de crise et compte tenu de la présence de ces ressortissants français, le parquet de Paris a ouvert une enquête.
Le deuil en Éthiopie, au Kenya, merci Claude Guibal, et dans tous les pays qui avaient des ressortissants dans l'avion, la tourmente pour Boeing avec ce deuxième accident d'un 737 MAX en 4 mois. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir Sébastien.
L'action de l'avionneur américain dévisse à Wall Street et 2 pays immobilisent leur 737-800 MAX jusqu'à nouvel ordre.
Oui, effectivement, la Chine a décidé de clouer au sol tous les avions du même type que celui d'Ethiopian Airlines. Cela représente 76 appareils. Même chose pour l'Indonésie, là où s'était abîmé en mer le premier 737-800 MAX de la compagnie Lion Air. C'était le 29 octobre dernier, quelques minutes après le décollage. Alors, d'autres décisions de ce type pourraient être prises dans les jours qui viennent. D'autant que les pilotes, notamment américains, évoquent des problèmes d'informatique embarqués qui, pour faire simple, pourraient faire chuter l'avion, manœuvre pas rattrapable, même en passant en pilotage manuel. Alors, au-delà du drame, vous le disiez, c'est un coup dur pour l'avionneur américain, car l'avion, qui est le concurrent direct de l'Airbus A320neo, se vend plutôt bien. 3 chiffres, 370 appareils sont d'ores et déjà en service et 5000 ont été commandés par 106 compagnies, y compris des grandes comme Ryanair, qu'il faut le savoir, le plus gros client de l'usine de Renton près de Seattle. Et donc, Boeing va devoir rapidement rassurer ses clients et donner des explications quant aux problèmes rencontrés par cet avion. Et de leur côté, les compagnies clientes pourraient être amenées dans les prochains jours à revoir à la baisse leurs commandes, voire à demander à Boeing de baisser ses prix de vente. Aujourd'hui, pour mémoire, un 737-800neo coûte un peu moins de 100 millions d'euros pièce au prix catalogue.
Philippe Lefebvre, et vous trouverez justement sur franceinter.fr un comparatif précis entre ce Boeing 737 MAX et l'Airbus A320neo.
Emmanuel Macron va saisir le Conseil constitutionnel.
Concernant la proposition de loi anti-casseurs qui doit être définitivement adoptée demain au Sénat, le Conseil devra se prononcer en particulier sur la possibilité de procéder à des fouilles, sur les restrictions de manifester et sur la création d'un nouveau délit de dissimulation du visage. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Emmanuel Macron dépose un recours pour éviter un revers politique.
Oui, alors ce n'est évidemment pas la raison officielle de cette saisine, justifiée en quelques mots ce midi par le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.
Le président de la République a donc informé le gouvernement de son intention de saisir le Conseil constitutionnel. Il est ainsi pleinement dans son rôle de garant des libertés publiques dans notre pays.
Le président garant des libertés publiques, ça c'est pour le refrain qu'on entendra ces prochains jours, mais qui selon un proche craignait surtout que les sages donnent raison à l'opposition, car demain, 4 groupes, socialistes, insoumis, communistes, liberté et territoire, vont en effet déposer un recours très argumenté, notamment contre l'article 2 de cette loi anti-casseurs. Pour la chef de file des députés socialistes Valérie Rabault, le président a donc pris les devants.
Il n'a pas envie de se faire rattraper. J'imagine qu'il a reçu et le détail de notre recours les argumentaires qui y figurent, et peut-être qu'il s'est dit que bah, plutôt que se faire rattraper, il préférait lui aussi entamer une démarche de saisine.
Une démarche rarissime, il faut le souligner, puisqu'Emmanuel Macron saisit le Conseil sur un texte voté à l'Assemblée, on le rappelle, par sa propre majorité. Il donne finalement raison à son aile gauche, qui ce soir s'estime plutôt heureuse de cette parole présidentielle, même si la prochaine fois, elle espère être écoutée plus tôt.
Élodie Forest, c'est une préconisation qui est très souvent suivie. Le rapporteur public recommande d'annuler la privatisation de l'aéroport de Toulouse, privatisation partielle qui a permis au groupe chinois Casil d'entrer au capital de la société qui gère l'aéroport. La cour d'appel devrait rendre sa décision d'ici 1 à 2 mois. Les doudous accrochés à la grille de l'hôpital de Bernay n'auront rien changé. Il n'y aura plus d'accouchement à la maternité de l'Eure. Elle a officiellement fermé aujourd'hui sur décision de l'État et le juge des référés a rejeté le recours déposé contre cette fermeture. Le dernier bébé est donc né hier. Coralie Moreau a rencontré sa maman.
Enveloppé dans une couverture, Raphaël dort sans savoir qu'il jouit déjà d'une belle notoriété. Dernier né de la maternité à Bernay, donc, comme ses trois frères et sœurs, un acte militant s'amuse sa maman, Alexandra.
Je pense qu'il voulait absolument naître à Bernay, donc c'est lui qui a décidé. J'en ai pour 5 minutes de route, alors qu'à Lisieux, j'aurais eu 30 minutes de route. Donc ce qui aurait été peut-être un petit peu plus compliqué, vu que j'ai accouché en 1h30. J'aurais pu accoucher dans la voiture.
Une inquiétude légitime pour Sarah Ferraud, infirmière depuis 12 ans dans le service et secrétaire du collectif Liberté, Égalité, Proximité. Elle a l'exemple d'un centre de périnatalité du département.
On nous a dit récemment qu'il n'y avait eu qu'un accouchement dans le service des urgences, mais 19 sur le bord de la route.
D'où l'amertume de Sarah, partagée par le chef du service de gynécologie obstétrique, Ibrahim Maquet. Met des enfants au monde à Bernay depuis 20 ans. Il avait trouvé des confrères à recruter, mais ça n'a pas suffi.
Je trouve qu'on fait quelque chose pour cette population qui est là. Ça coûte cher, oui. La sécurité ne rime pas avec l'argent, malheureusement. Je ne suis pas d'accord pour faire des maternités des grosses usines, des femmes numéros. Malheureusement, maintenant, toujours, on va brader beaucoup des services pour l'économie. Hein.
Car l'accouchement n'est plus rentable. À côté de Rouen, le centre hospitalier du Belvédère, première maternité de Normandie, souvent en tête des classements nationaux, est menacé aujourd'hui. Déficit trop important.
Reportage signé Coralie Moreau. Erreur 404. 404 millions d'euros arbitrés en faveur de Bernard Tapie en 2008 pour solder son vieux litige avec le Crédit Lyonnais et annulé pour fraude. Le procès pour escroquerie de l'homme d'affaires s'est ouvert à Paris. Stéphane Richard, actuel patron d'Orange, et directeur de cabinet de la ministre de l'économie de l'époque, Christine Lagarde, est aussi sur le banc des prévenus. La directrice générale du FMI ne viendra pas témoigner.
Des débats sur le climat, vendredi, dans tous les lycées de France, Sébastien.
Alors que la jeunesse européenne manifeste pour plus d'action contre le réchauffement climatique depuis plusieurs semaines dans le sillage de la Suédoise Greta Thunberg, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer annonce 2 heures de discussion vendredi de 16 à 18h à l'occasion de la grève mondiale des élèves sur le sujet. Gare au retour dans la région de Fukushima, plusieurs ONG dont Greenpeace critiquent l'appel du gouvernement japonais qui estime que la zone touchée par l'accident nucléaire de 2011 est désormais viable à 97%. Plusieurs rapports des Nations Unies vont dans le même sens et mettent en cause la décision de Tokyo d'augmenter le taux d'exposition acceptable aux radiations dans le secteur de la centrale. Et en France, bonsoir Célia Kiren.
Bonsoir Sébastien.
Un rapport de l'IRSN regrette la manière dont les autorités parlent des conséquences sur la santé.
Oui, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire constate, après 5 ans d'enquête avec Sciences Po, que la société japonaise est profondément divisée. D'un côté, le gouvernement japonais minimise. Selon lui, il n'y a plus de risque. Les familles peuvent vivre dans le secteur grâce aux efforts de décontamination. 46 milliards d'euros ont été investis. Et de l'autre, eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Seuls 15% des habitants sont rentrés chez eux depuis 8 ans. En réalité, les familles n'ont plus confiance. Elles sont donc toujours éclatées entre différents lieux de vie. Certaines femmes sont poussées à revenir dans leur village avec les personnes âgées. Mais elles veulent également protéger leurs enfants des risques radioactifs et hésitent à déménager. Au fond, ce rapport franco-japonais a une dimension sociologique. Il est intitulé Shinrai, ce qui veut dire confiance en japonais, mais il montre au contraire que les Japonais ne croient plus les élus ni même les experts scientifiques. Et pour cause, vous le disiez, les ONG comme l'ONU sont très critiques. En octobre, un expert des Nations Unies avait demandé au gouvernement de ne plus faire revenir les enfants et les femmes en âge d'être maman dans ces zones où les niveaux de radioactivité restent supérieurs à ceux considérés comme sûrs avant le désastre. Aujourd'hui, cette question des conséquences de la catastrophe de Fukushima sur la santé est devenue devenu tabou et l'entreprise TEPCO, la multinationale qui exploitait la centrale, fait face désormais à 12 000 plaignants.
Le tsunami et le tremblement de terre ont tué 18 500 personnes il y a tout juste 8 ans. Merci Célia Kiré. Carlos Ghosn ne participera pas demain au conseil d'administration de Nissan. Il en a l'obligation en tant qu'administrateur pour ses avocats, mais le tribunal de Tokyo où il est assigné à résidence refuse. L'ancien président du constructeur japonais a interdiction de rencontrer les protagonistes de l'affaire. Et d'abord évidemment les responsables de Nissan qui sont à l'origine de l'enquête qui a provoqué sa chute. On apprend aussi ce soir qu'une enquête préliminaire a été ouverte en France sur le mariage de Carlos Ghosn au château de Versailles en octobre 2016. Enquête ouverte il y a 15 jours. En Syrie, les forces démocratiques syriennes font une pause dans leur assaut contre le groupe État islamique retranché à Baghouz. Des djihadistes et des civils retranchés dans un camp de fortune du village se sont encore rendus aujourd'hui. Alors Aurélien Colli, vous êtes aux côtés des FDS. Qu'en est-il ce soir de ces civils?
La reprise de l'assaut hier de la pression militaire a provoqué de nouvelles sorties ce matin. Un commandant des forces démocratiques syriennes m'a dit que près de 300 personnes avaient fui l'enclave, djihadistes qui se sont rendus avec leurs familles, beaucoup de blessés, des blessés graves que les forces démocratiques syriennes n'ont pas voulu que les journalistes voient. Alors qu'en allant vers le front, en principe, on passe toujours à côté de l'endroit où ces civils arrivent, où ils sont fouillés, triés, avant d'être transférés vers le nord, vers des camps pour les femmes et les enfants, vers des centres d'interrogatoire pour les hommes. Et bien, pour la première fois aujourd'hui, on a emprunté une route qui ne passe pas par cet endroit. Alors soit ce sont des images de civils blessés que les forces démocratiques syriennes ne veulent pas vraiment montrer, elles qui disent vouloir protéger ceux et celles qui n'ont pas pris les armes, même les familles de djihadistes, soit il y a dans ces hommes, ces djihadistes qui se sont rendus ce matin, le noyau de l'organisation État islamique, des commandants, des étrangers qui intéressent particulièrement les forces démocratiques syriennes, les forces spéciales ou les services de renseignement américains, britanniques ou encore français qui sont très discrets, quasi invisibles mais évidemment présents.
Aurélien Colli, envoyé spécial de France Inter à Baghouz.
Sébastien, l'info du jour à la page sport, c'est le retour de Zidane au Real Madrid.
Eh bien oui, il en est parti il y a 9 mois, après un 3e titre consécutif en Ligue des Champions. Il revient en sauveur. Bonsoir Amaya Cazenave.
Bonsoir.
Un passement de jambes comme il en avait le secret sur le terrain au moment où le club madrilène n'est pas à son meilleur niveau.
Ah non, le Real Madrid est en perdition cette saison. Éliminé de la Ligue des Champions, éliminé de la Coupe du Roi, distancé en championnat 3e de la Liga, mais à 12 points du leader. Son ennemi de toujours, le FC Barcelone. 284 jours, très exactement, après sa démission, Zidane revient donc au chevet d'un Real malade. Réclamé par le vestiaire, le champion du monde 98 a signé jusqu'en juin 2022. Il a aussi négocié pour avoir la main sur les prochains recrutements. Et Zizou n'arrive pas seul, mais avec dans ses valises son confident, son adjoint David Bettoni. Les deux hommes seront d'ailleurs au centre d'entraînement madrilène dès demain matin pour diriger leur première séance. À 46 ans, le défi s'annonce immense pour Zinedine Zidane. Jusque-là, son aventure sur le banc merengue a été idyllique. En 3 saisons à la tête de la Maison Blanche, il a remporté 9 trophées et surtout un incroyable triplé. 3 Ligues des Champions d'affilée entre 2016 et 2018. Aujourd'hui, les enjeux seront tout autres. Zidane devra ressouder un vestiaire désorienté, orphelin de Cristiano Ronaldo et accrocher en fin de saison une qualification en Ligue des Champions.
Amaya Cazenave, merci. Avant de refaire le point sur ce qui se passe en Algérie, un nouvel album et un concert ici à France Inter. C'est demain soir, celui du groupe Falls. Les Anglais joueront les morceaux de leur nouveau disque qui sortira en 2 parties. Mathieu Culeron a rencontré le chanteur de Falls, Yanis Philippakis.
Falls revient avec un album en 2 parties, 2 disques, 2 ambiances. C'est ce qu'a voulu Yanis Philippakis, le chanteur de Falls, qui a enregistré ce disque entre Paris et l'Angleterre. L'album 2 est légèrement plus enlevé par les guitares. L'énergie rock y est aussi plus présente. L'album numéro 1 est sans doute plus influencé par la dance music. Au tout début du groupe, nous étions d'ailleurs très très influencés par la techno. Et le concept même de la formation était d'essayer de traduire notre idée de cette musique avec des guitares. Le titre In Degrees sur cet album est un titre 100% dance. Effectivement, la plupart de ces titres sont taillés pour les clubs. Un disque qui parle d'abandon, de société en déliquescence. Un nouveau disque de Falls réalisé en plein débat sur le Brexit. Une ambiance qui a obsédé Yanis Philippakis, le chanteur du groupe. J'ai vraiment l'impression d'être un adolescent. Mes parents essayent de divorcer, mais ils se crient dessus depuis 2 ans dans une engueulade sans fin. La métaphore s'arrête là, car ceux qui nous gouvernent ne sont même pas des adultes. Everything Not Saved Will Be Lost, un album à part dans la discussion discographie de Falls, un album de trance moderne designé pour le live, l'un des très grands atouts du groupe d'Oxford qui fête cette année ses 14 ans.
Falls en concert demain soir sur Inter, ce sera à partir de 20h, c'est complet mais ce sera en direct à l'antenne évidemment. Comme promis, un point sur la situation en Algérie où on commence à klaxonner ce soir après l'annonce faite il y a une demi-heure, maintenant une grosse demi-heure, 40 minutes. Bonsoir Franck Madvon.
Bonsoir Sébastien.
Le président Bouteflika renonce à un cinquième mandat de président et reporte la présidentielle.
Oui c'est ça, c'est l'agence officielle APS qui a publié tout à l'heure un message à la nation du président Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika renonce donc à un cinquième mandat. Il n'y aura pas de cinquième mandat, dit-il dans ce message. Il n'en a jamais été question pour moi. Mon état de santé et mon âge ne m'assignant comme ultime devoir envers le peuple algérien que la contribution à l'assise des fondations d'une nouvelle république. Fin de citation. Mmh. On apprend donc dans ce message le report de l'élection présidentielle du 18 avril, vous le disiez. Il faut tout de même préciser que le mandat de Bouteflika se termine théoriquement le 28 avril. On voit donc en ce moment même sur les réseaux sociaux des messages de manifestants parlant d'une demi-victoire, car cela signifie-t-il que le mandat de Bouteflika va se prolonger peut-être pour toute l'année 2019. C'est possible. En tout cas, le régime nous annonce qu'une nouvelle constitution sera soumise à référendum. La présidentielle aura lieu dans le prolongement, nous dit-on, d'une conférence nationale chargée de réformer le système politique. En tout cas, Abdelaziz Bouteflika semble-t-il céder à l'inéluctable et à la pression de la rue, à cette très forte mobilisation des deux dernières semaines.
Plus de deux semaines effectivement de manifestation. Date historique, dit ce soir le politologue suisse et algérien Hasni Abidi. Écoutez.
C'était la solution la moins coûteuse pour le régime algérien et c'est une offre de sortie qui est plus honorable pour le président algérien, d'épargner un petit peu cette sortie humiliante en cas d'invalidation de conseil constitutionnel. Elle dénote aussi, à mon avis, de ce retrait, vous venez d'évoquer, du soutien, en tout cas de l'armée algérienne, de son état-major. Et j'ajouterai un autre élément, je pense que l'état de santé du président Bouteflika, depuis son hospitalisation il y a deux semaines, a aussi pesé sur la balance pour vraiment y trouver une solution. Ce n'est pas un report, c'est une annulation, ce qui est très très important. Ça veut dire que l'Algérie aujourd'hui, elle va entrer dans une nouvelle ère avec un changement radical de l'élite ou d'une équipe qui va prendre en charge cette transition. C'est vraiment un tournant que va vivre l'Algérie dans les prochaines heures.
Hasni Abidi, politologue suisse et algérien qui vient de répondre à l'instant à nos confrères de France Info. La France prend acte du renoncement du président Bouteflika par la voix du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, l'un des premiers à réagir. Et à Alger, le ministre de l'Intérieur, monsieur Bedaoui, remplace le premier ministre, monsieur Ouyaya. À l'instant, on vient de parler avec Franck Madvon de cette démission également du premier ministre algérien. Abdelaziz Bouteflika ne sera pas candidat à un cinquième mandat et l'élection du 18 avril, l'élection présidentielle est reportée, Fabienne.
Voilà, c'est la grosse info de ce soir. Sébastien Paour, merci beaucoup. Le téléphone sonne, c'est dans un instant, ne bougez pas.